Là, on va parler d'un problème qui intéresse de très très près les malades, les familles, mais je dirais presque nous tous. C'est les troubles du sommeil dans la maladie d'Alzheimer. Et j'accueille avec plaisir le docteur, Caroline Franqui, donc qui est neurologue au centre gérontologique.
Bonjour à tous. Alors, je suis en effet le docteur Caroline Franqui. En revanche, je suis gériatre.
Pardon, excusez-moi. Pardon.
Ça arrive, hein, c'est pas une tare, je vous rassure, enfin, j'espère. Donc au centre gérontologique départemental de Marseille, ainsi que dans le service du professeur Mathieu Secaldi à la Timone, avec Leïla. Donc voilà. Donc merci déjà pour votre présence aujourd'hui. Merci pour votre présence auprès des malades. Merci pour votre présence auprès de nous dans les services hospitaliers. Merci aux organisateurs pour leur invitation et pour me permettre de vous parler aujourd'hui donc des troubles du sommeil dans la maladie d'Alzheimer. Avant toute chose, je voudrais vous dire deux mots sur le sommeil. Le sommeil, c'est une fonction vitale de l'organisme qui participe à l'équilibre somatique, psychologique et cognitif. Il va permettre la récupération de ce qui s'est passé dans la journée. Il va avoir des effets sur le système cardiovasculaire, sur la respiration, sur le système endocrine, au travers notamment des sécrétions hormonales, sur le système immunitaire, sur la cognition. Le sommeil prépare à l'état de veille qui suit. C'est un phénomène actif qui implique de nombreuses structures cérébrales et de nombreux neurotransmetteurs. Il va être composé de 4 à 6 cycles de 90 à 110 minutes à chaque fois. Ce qui signifie que nous passons près d'un tiers de notre vie à dormir. Et oui, certains davantage d'ailleurs. Nous sommes tous très différents face au sommeil, et ce pour plusieurs raisons. Il y a des facteurs génétiques, des facteurs culturels, des facteurs éducatifs, des facteurs également liés à nos organisations de vie ou à d'éventuels problèmes de santé. Certains d'entre nous vont avoir besoin de 9 heures de sommeil pour se sentir reposés, quand d'autres vont seulement avoir besoin de 6 heures. Certains vont être dits du soir, car ils vont avoir tendance à se coucher tard et, s'ils le peuvent, se lever un petit peu plus tard le lendemain. Et d'autres vont plutôt être du matin, puisqu'en fait, ils vont se coucher tôt et se lever tôt. Nous avons tous également des habitudes de vie, des habitudes, voire des routines, des rituels par rapport au coucher. Il est important de les connaître. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ah non, je vous en parlais tout de suite. Pardon, sur ces rituels du coucher. Notamment, certains vont avoir besoin de prendre une douche avant de se coucher. Ils vont aimer prendre une petite collation sucrée ou salée. On va aimer dormir en tenue d'Ève ou en tenue d'Adam. Dormir en pyjama licorne, pilou-pilou. Ça arrive avec un oreiller, deux oreillers, un traversin, pas de traversin, un matelas souple, un matelas dur. Autant de données qu'il est important de connaître et de tracer, notamment lorsque la personne ne sera pas capable de nous dire quelles étaient ses habitudes de sommeil, ce dont elle a besoin, ce qui lui ferait plaisir. L'examen médical qui permet d'analyser le sommeil et ses différents cycles est la polysomnographie. Elle consiste à placer des électrodes sur le cuir chevelu et sur le visage de la personne, ce qui signifie, vous vous en doutez, que la personne doit être un minimum compliante et surtout ne doit pas être agitée ou arracher les électrodes pendant la nuit. Cet examen n'est donc pas accessible à tous les malades. Il va résulter en fait de cet enregistrement un graphe qui s'appelle un hypnogramme. Je suis un peu décalée là pour vous montrer. Et chaque cycle donc de sommeil va commencer par un temps de sommeil léger qui est représenté par la phase 1, puis se terminer par un temps de sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal s'appelle également le sommeil REM, pour Rapid Eye Movement. C'est un sommeil au cours duquel le cerveau va être très très actif, mais les muscles vont être relâchés. La phase 1 correspond au sommeil léger, la phase 2 va correspondre au sommeil intermédiaire, et les phases 3 et 4 au sommeil profond. Chaque stade de sommeil va avoir ses rôles propres. Par exemple, pendant le sommeil profond, on va observer la récupération des activités physiques de la journée ainsi que la récupération des fonctions cognitives. Le sommeil profond va également être celui lors duquel on va avoir un maximum de sécrétions hormonales. Au cours du sommeil paradoxal, on va observer des processus de consolidation de la mémoire et notamment les rêves, enfin, et également les rêves avec toutes leurs connotations psychanalytiques, culturelles, religieuses éventuellement. Donc, au cours d'une nuit, la personne va avoir plusieurs cycles du sommeil, en général, je vous l'ai dit, entre 4 et 6, dont la composition va varier, avec une diminution du sommeil profond au profit du sommeil paradoxal. Quelle que soit la durée de sommeil, il va y avoir également des réveils brefs dont la personne ne se souviendra absolument pas au lever et qui n'auront pas de répercussions sur la qualité de son sommeil. Comme vous le savez, les troubles du sommeil sont fréquents dans la maladie d'Alzheimer puisqu'ils concerneraient au moins un tiers des malades. Certaines études disent même que plus de 2/3 des malades seraient concernés par ces troubles du sommeil. Il est difficile d'avoir la prévalence exacte des troubles du sommeil dans la maladie d'Alzheimer, car ce sont souvent des données subjectives qui nous sont communiquées. Au stade modérément sévère et sévère de la maladie, en effet, le malade n'est pas capable de porter une polysomnographie ou de remplir des questionnaires d'évaluation objective de la qualité de son sommeil, et donc nous nous référons en fait à ce que nous rapporte l'entourage. Il faut savoir que la principale cause de troubles du sommeil dans la maladie d'Alzheimer est l'âge en lui-même. Comme vous le savez, les malades d'Alzheimer sont majoritairement des personnes âgées. Or, nous savons qu'avec l'âge, on observe une déstructuration du sommeil, et ce, de façon physiologique. En effet, chez le sujet âgé, on note une avance de phase avec une tendance à se coucher tôt et à se lever plus tôt, qui correspond à une modification de la régulation, du rythme circadien du sommeil. Chez la personne âgée, on va également avoir un allongement du temps d'endormissement, on va avoir une augmentation du nombre et de la durée des éveils nocturnes, ainsi qu'une diminution des temps de sommeil profond et de sommeil paradoxal au profit du sommeil léger. Malheureusement, également avec l'âge, on a une plus forte prévalence des pathologies responsables de troubles du sommeil ou associées aux troubles du sommeil. On peut prendre par exemple les problèmes urinaires qui vont contraindre la personne à se lever une ou plusieurs fois dans la nuit, des douleurs insomniantes d'origine arthrosique ou dues à d'autres problèmes rhumatologiques ou encore malheureusement à des problèmes de cancer, un état anxieux qui va surtout impacter en fait le début de nuit, un état dépressif qui pour le coup va plutôt concerner la fin de nuit avec de grandes difficultés à se lever, et également la possibilité d'avoir, enfin le risque d'avoir des troubles respiratoires et notamment un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Concernant ce dernier, je tiens à préciser que le SAOS, comme on l'appelle, est plus fréquent avec l'âge et il est plus fréquent également et de façon indépendante dans la maladie d'Alzheimer. Donc quand vous avez un patient qui présente des troubles du sommeil, il est important d'essayer de diagnostiquer un éventuel syndrome d'apnée obstructive du sommeil, et ce pour plusieurs raisons. La première, parce que ça va altérer bien sûr son sommeil. La deuxième, parce qu'il va falloir le traiter et éventuellement essayer de l'appareiller avec, comme vous le savez, un appareil de pression positive continue la nuit. Et surtout, et je reviens sur la remarque qui a été faite par monsieur tout à l'heure, parce qu'il ne faudra pas donner de benzodiazépines à ses patients. Les benzos sont contre-indiqués en cas de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Si on met l'âge à part, nous savons aujourd'hui qu'il existe une interdépendance entre les troubles du sommeil et la maladie d'Alzheimer. Une privation de sommeil va augmenter en fait la pathologie amyloïde qui, comme vous le savez, fait le lit de la maladie d'Alzheimer. Nous savons donc aujourd'hui que les troubles du sommeil sont un facteur de risque indépendant de maladie d'Alzheimer. À l'inverse, la maladie d'Alzheimer, comme toute les maladies neurodégénératives, dont la maladie à corps de Lévy, dont vous parlez le docteur Coric tout à l'heure, sont vectrices de troubles du sommeil. Et ces troubles vont être d'autant plus fréquents que la maladie va évoluer. Alors, comment se caractérise-t-il ? Les troubles du sommeil dans la maladie d'Alzheimer vont être comparables à ceux que l'on observe avec le vieillissement physiologique, mais de façon bien, bien plus prononcée. Donc, je vous le rappelle, allongement du temps d'endormissement, augmentation du nombre et de la durée des éveils nocturnes, et diminution du sommeil profond et du sommeil paradoxal, et de toutes les vertus de ces stades de sommeil, hein, consolidation mnésique, récupération cognitive et physique, donc au profit du sommeil léger. Plus l'atteinte cognitive va progresser, plus les troubles du sommeil vont s'accentuer, et nous observons parfois ce que nous appelons une inversion du cycle nyctéméral, c'est-à-dire une inversion du cycle jour-nuit, dans laquelle le patient va être somnolent, voire va dormir dans la journée, et par contre va, comme on le dit entre nous, faire guinguette la nuit, c'est-à-dire que la nuit, il n'arrête pas, il bouge les meubles, on a l'impression qu'il vit sa vie, mais la nuit. Les hypothèses concernant l'interdépendance entre les troubles du sommeil et la maladie d'Alzheimer sont multiples. On pense notamment qu'il existe un dérèglement de l'horloge biologique, c'est-à-dire de la régulation homéostatique du sommeil. Car on a observé que lorsqu'un malade avait une privation de sommeil, et ce parfois pendant plusieurs nuits, il n'y avait pas de sommeil récupérateur. C'est-à-dire qu'une personne peut faire nuit blanche, pour autant, elle ne somnolera pas ou ne dormira pas le lendemain. Ce qui prouve bien que la régulation interne homéostatique est perturbée. Il existe également des déficits dans certaines sécrétions hormonales comme la mélatonine, qui est une piste thérapeutique, on en parlera tout à l'heure. Également, des déficits en neurotransmetteurs sont impliqués, notamment l'acétylcholine, la sérotonine ou le glutamate. Enfin, mes deux collègues en parlaient également précédemment, on sait aujourd'hui qu'être porteur d'un marqueur génétique qui s'appelle l'apolipoprotéine E4 expose non seulement au risque de développer une maladie d'Alzheimer, mais également de développer des troubles du sommeil. Alors, vous vous en doutez, et certains d'entre vous même le savent pour le vivre, les troubles du sommeil dans la maladie d'Alzheimer ont des conséquences non seulement sur le malade, mais sur son entourage immédiat. Alors, chez le malade, ils vont augmenter le risque de décompensation somatique et psychologique. Ils vont accélérer la dégradation cognitive ainsi que la perte d'autonomie. La somnolence diurne s'associe très souvent malheureusement à des troubles de la marche, voire à des chutes, ainsi qu'à des troubles de la déglutition, à une réduction des prises alimentaires qui expose la personne à un fort risque de dénutrition, avec ensuite malheureusement un cercle vicieux concernant l'état général qui s'en trouve altéré. L'insomnie d'endormissement va souvent s'accompagner de conduites d'errance qui peuvent mettre en danger le malade et qui peuvent perturber l'entourage. Lorsqu'un patient déambule alors que les pièces sont éteintes, il peut se prendre les pieds et chuter. Il peut sortir en pleine nuit parce qu'il est persuadé qu'il doit aller travailler, par exemple. Quand on est en plein hiver et qu'on retrouve le patient à 34 de température, c'est problématique, bien évidemment. Malheureusement, on observe aussi souvent la nuit, en fait, des symptômes productifs associés aux troubles du sommeil, tels que des hallucinations visuelles, des comportements d'opposition, voire d'agressivité. Tous ces symptômes, malheureusement, vont avoir des répercussions extrêmement néfastes sur l'état de santé des accompagnants, avec un fort risque d'épuisement de l'entourage. Et concernant le patient, ce sont autant de facteurs qui risquent de précipiter son entrée en institution ou, s'il est déjà en institution, qui risquent d'entraîner un changement de secteur pour une unité protégée, par exemple, où là, de toute façon, les troubles du sommeil devront quand même être pris en charge, évidemment, autant que faire se peut. Alors, la prise en charge des troubles du sommeil dans la maladie d'Alzheimer repose en première intention sur les interventions non médicamenteuses. Ces interventions doivent être globales et personnalisées. Avant tout, il s'agit de suivre les recommandations générales pour un sommeil de qualité, ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire se coucher et surtout se lever à heure fixe, éviter les excitants en fin d'après-midi ou dans la soirée, tels que le café, le thé, l'alcool, le tabac. Éviter de faire des dîners trop copieux, trop lourds, avec trop de matières grasses, avec des produits épicés qui vont vous empêcher de dormir, qui peuvent favoriser aussi certaines pathologies gastriques, comme le reflux gastro-œsophagien. Alors, évitez de regarder la télévision. Je souris à chaque fois que je vois cette recommandation, car dans mon entourage proche notamment, j'ai des personnes qui ne peuvent que s'endormir devant la télévision. Voilà. Personnellement, je ne m'endormirai jamais devant la télévision, ça me stimule beaucoup trop, donc ça peut créer parfois quelques conflits, j'ai envie de vous dire. Ça prouve bien qu'il est important de connaître les habitudes de chacun, parce que c'est surtout ça qui va être important dans la prise en charge personnalisée des troubles du sommeil. Pour autant, dans les recommandations générales, on va vous dire d'éviter de regarder la télévision le soir parce que ça vous stimule, d'éviter surtout de regarder les écrans, donc tout ce qui est tablette, portable, éviter de manger au lit, de rester trop longtemps dans le lit alors que vous n'y faites rien. Parallèlement, toutes les activités qui vont favoriser la vigilance dans la journée, qui vont permettre de réduire la somnolence dans la journée, doivent être privilégiées. En l'occurrence, les activités socialisantes, Pour les malades, ça peut être les accueils de jour. En général, quand un patient rentre d'une journée en accueil de jour, il dort mieux la nuit qui suit. Et également les activités physiques. Vous savez par ailleurs que ces activités physiques et socialisantes ont un effet extrêmement bénéfique sur la cognition. Concernant l'activité physique, alors on peut dire activité sportive, c'est une activité physique modérée, ça peut être de la marche active, si possible en extérieur, tous les jours, 30 minutes par jour, et avant 19 heures. L'environnement, bien sûr, doit être analysé et toutes les causes environnementales susceptibles de favoriser ou d'aggraver les troubles du sommeil doivent être corrigées si possible. Pour ceux qui ont déjà dormi à l'hôpital, vous savez comment ça se passe. C'est insupportable. On ne dort pas. La nuit, les chariots font du bruit, les lumières sont allumées, les soignants, j'en fais partie, parlent parfois trop fort. Voilà. Ce sont autant de sources environnementales qui nécessitent d'être repérées et d'être corrigées si on veut améliorer la qualité du sommeil de nos patients et de nos résidents. Et quand je vous parlais de la personnalisation de la prise en charge, c'est certes, monsieur et madame, vous dormez en collectivité, mais finalement, qu'est-ce que vous aimiez avant? Vous vouliez un matelas comment? Dur, mou, un oreiller, deux oreillers, le fameux pyjama à licorne en pilou-pilou, ou bien vous voulez dormir tout nu sans qu'on dise que vous êtes désinhibé? Voilà, c'est un petit peu ça. Respecter les habitudes de vie de la personne, respecter les rituels du coucher. Enfin, plusieurs études ont montré un effet bénéfique de la luminothérapie sur le rythme veille sommeil, ainsi que sur la réduction de l'agitation vespérale. Alors, les modalités de la luminothérapie ne sont pas parfaitement précisées, mais il s'agirait d'exposer la personne à une intensité de 2500 lux entre 1h30 et 2h par jour, si possible le matin ou en début d'après-midi, ou bien à une intensité de 10 000 lux, là c'est plutôt dans le cadre d'études, pendant 30 minutes, toujours le matin ou en début d'après-midi. Lorsque ces interventions non médicamenteuses sont insuffisantes, il nous arrive en effet de prescrire des molécules. Alors, le rapport bénéfice-risque de la mélatonine est en faveur de sa prescription. Donc la mélatonine doit être tentée dans les troubles du sommeil chez un malade ayant une pathologie Alzheimer. Les études sont controversées, mais encore une fois, c'est une molécule en fait qui a très peu d'effets secondaires et qui en effet a prouvé son efficacité, notamment sur des données subjectives de l'entourage, dans de nombreuses études. Alors, à quelle posologie? En général, un comprimé au coucher à LP, LP, vous savez, c'est pour libération prolongée, 2,5 mg, ou sinon à des posologies plus importantes sous forme de préparation magistrale. Les hypnotiques, qu'il s'agisse de benzodiazépines ou non, gardent leur indication dans les troubles du sommeil, mais leur prescription doit être réévaluée toutes les 4 semaines. Parce qu'elle aurait des effets secondaires moindres, le zopiclone est à privilégier, notamment chez les sujets âgés. Il est également nécessaire de penser aux antidépresseurs sédatifs. Il est surtout nécessaire de s'assurer que les troubles du sommeil ne soient pas dus à un syndrome anxio-dépressif, auquel cas les antidépresseurs sédatifs peuvent avoir leur indication si le patient a non seulement des troubles du sommeil, mais un état dépressif associé. Ils ne sont pas indiqués, par contre, en première indication dans les troubles du sommeil seuls. Les anticholinestérasiques, les neuroleptiques, même de seconde génération, n'ont pas d'indication dans les troubles du sommeil. Enfin, il existe une dernière classe médicamenteuse qui est représentée en France par le daridorexan et qui semble prometteuse. Alors, le daridorexan, c'est un antagoniste des récepteurs de l'orexine, l'orexine étant un neurotransmetteur qui favorise l'éveil. Donc l'idée est de diminuer l'hyperéveil vespéro-nocturne pour favoriser le sommeil. Le daridorexan a eu un avis favorable de la Haute Autorité de Santé, mais il n'est pas encore commercialisé en France, essentiellement pour une raison de coût. Je crois que c'est plus entre 400 et 450 euros par mois, le traitement. Donc en conclusion, les troubles du sommeil majorent le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer et ils en accélèrent l'évolution. La maladie d'Alzheimer elle-même entraîne des troubles du sommeil qui vont se majorer avec l'évolution de la maladie. Il est impératif de rechercher toutes les pathologies vectrices ou associées aux troubles du sommeil, et notamment un état dépressif, car vous savez que le risque suicidaire est très important dans ces pathologies, surtout chez la personne âgée, ainsi qu'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui, s'il est présent, devra, si possible, être appareillé et, en tout cas, devra contre-indiquer l'administration de toute benzodiazépine. La prise en charge thérapeutique doit être globale et personnalisée, en privilégiant en première intention les interventions non médicamenteuses, en tentant l'association mélatonine-luminothérapie et en cas de nécessité, en recourant à des traitements psychotropes, en l'occurrence les hypnotiques, qui devront être réévalués régulièrement. Je vous remercie.
Merci infiniment. Vous restez quelques minutes avec nous. Des questions, bien évidemment, dans la salle sur autour de ces troubles du sommeil. On vous a écouté attentivement et on a pris en photo tout ce qui pouvait être intéressant. Peut-être alors juste une question rapide. On parle de vous expliquez que pendant le sommeil paradoxal, il y a une sorte de consolidation de ce que l'on a vécu, appris, etc. dans la journée. Est-ce que les troubles, par exemple, de la mémoire sont majorés chez les patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer par des troubles du sommeil? En bref, est-ce que, à l'inverse, si on agit efficacement contre les troubles du sommeil, on peut améliorer le déclin en termes cognitifs?
Alors, votre question, elle est double. Donc, je vais répondre à la première. Donc, en effet, les troubles du sommeil vont accélérer la dégradation mnésique et également ce qui concerne les activités instrumentales, c'est-à-dire le savoir-faire de la personne. Pour autant, chaque malade va évoluer différemment et je ne peux pas vous garantir qu'une personne qui n'a aucun trouble du sommeil paradoxal ne va quand même pas avoir de dégradation cognitive. Je ne sais pas si vous m'avez suivi.
Si, si, parfaitement.
C'est-à-dire que voilà, la dégradation cognitive n'est malheureusement pas due que aux troubles
Bien
du
sûr.
Sommeil. Mais on le sait, le problème des troubles du sommeil, c'est que de façon intrinsèque, ils vont majorer la dégradation cognitive, mais les répercussions qu'ils vont avoir sur l'état de santé du malade et le fait qu'on va être obligé, excusez-moi de le dire, on n'est pas là pour pratiquer la langue de bois, mais très souvent on est amené à prescrire des traitements psychotropes, tous ces facteurs vont malheureusement aller en faveur d'une dégradation cognitive et l'état général de la personne. On le sait de toute façon, dans ces pathologies, tant que l'atteinte est purement cognitive, je ne dis pas que ce soit facile, bien évidemment, hein, mais bien sûr, c'est compliqué. Mais on arrive à peu près à équilibrer la situation, à stabiliser la situation. En fait, les choses ont tendance à se dégrader rapidement lorsque les fameux symptômes psychologiques et comportementaux apparaissent. Et les troubles du sommeil en font partie.
Mais vous comprenez en même temps parfaitement la situation du proche qui dort dans la même chambre, qui ne ferme plus les yeux de la nuit, qui est... Quel conseil, je dirais, vous donneriez aux proches qui subissent les troubles du sommeil et en développent de manière secondaire?
Alors, vous savez, moi, ça fait donc 15 ans que j'ai la chance de travailler dans l'équipe de Mathieu Secaldi en consultation. Et j'ai une phrase qui dit « Qui veut voyager loin ménage sa monture ». Bien évidemment, alors les premiers conseils que je vais donner vont concerner la prise en charge de ces troubles du sommeil. J'insiste sur la personnalisation et sur le fait surtout d'occuper la personne dans la journée, mais de l'occuper en lui faisant faire des choses qui lui permettent si possible de se sentir utile et qui ont du sens pour elle. Voilà. Après, l'occuper aussi en la fatiguant un petit peu. Alors souvent, la réponse que j'ai, c'est « oui, mais docteur, on habite au 5e étage sans ascenseur, il n'est pas possible de faire des activités physiques ». Je l'entends. J'ose croire qu'il y a certains rééducateurs, je pense aux kinés notamment, il y a des kinés qui font du travail fantastique à domicile. Et lorsque vraiment les gens sont seuls chez eux, bah, je leur donne des petits conseils tout bêtes. Alors peut-être que c'est un cataplasme sur une jambe de bois, mais je leur dis par exemple de faire des jeux de ballon. Et puis vous savez également, en s'inspirant notamment la méthode Montessori, de faire un maximum de choses à la personne par elle-même. Vous savez la fameuse phrase qui dit « pas parfait mais fait part », c'est-à-dire stimuler la personne à longueur de journée, donner-lui des choses à faire, donner du sens à ses journées, bouger là, il ne faut pas qu'elle s'endorme devant la télévision c'est passif, c'est pas intéressant, en plus on dort mal devant. Voilà, donc occuper les gens dans la journée pour qu'ils dorment mieux la nuit. Et malheureusement, une fois que tout a été tenté, une fois qu'on a vraiment tout essayé et qu'on réalise que les troubles du sommeil sont un symptôme à part entière de la maladie et qu'on ne peut plus rien faire contre, je ne vais pas vous faire plaisir ici, mais je crois que parfois il faut aussi accepter d'aller vers l'institutionnalisation, car à défaut de sauver le patient, il faut au moins qu'on arrive à sauver son aidant. Il n'y a rien de pire pour nous, médecins, que de perdre le couple aidant-aidé. Voilà.
Merci pour ces mots très très forts. Merci infiniment. Ah pardon, il y avait une question. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez revenir juste répondre à une, deux questions? Oui, madame derrière et puis monsieur, pardon.
Vous avez à un moment donné, à plusieurs reprises, parlé des interventions non médicamenteuses et les mettre en première instance notamment.
Oui.
Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, parce qu'on met beaucoup de choses derrière les interventions non médicamenteuses. Et est-ce que vous avez des exemples ou des préconisations que vous pourriez donner aux aidants et professionnels ou familles ?
Alors, dans les interventions non médicamenteuses, déjà, je vais prendre la petite casquette. Enfin, je ne suis pas autorité de santé, mais... vous savez que dans les interventions non médicamenteuses, il y a les approches non médicamenteuses, il y a les thérapies non médicamenteuses. Donc les approches médicamenteuses, c'est tout ce qui va être mis en place pour justement éviter que le symptôme n'arrive ou ne s'aggrave. Donc c'est typiquement les approches environnementales. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas toutes les lumières allumées. On met en place des rituels du coucher. On essaie de respecter vraiment les habitudes de sommeil de la personne. Quand on parle de thérapie non médicamenteuse, on est dans le traitement, c'est-à-dire qu'on vise un symptôme. Là, le symptôme, ça va être l'agitation nocturne, ça va être... On peut ne pas dormir parce qu'on est anxieux. Donc, la thérapie non médicamenteuse va aussi différer en fonction du symptôme que vous allez cibler. Si la personne ne dort pas parce qu'elle est délirante, je suis navrée, je pense qu'en non médicamenteux, on ne fait pas grand-chose sur un vrai délire systématisé, constitué. Par contre, si la personne ne dort pas parce qu'elle est anxieuse, ben vous allez mettre en place des thérapies non médicamenteuses pour pacifier son anxiété, pour la calmer. Et souvent, l'anxiété va répondre aux thérapies sensorielles. Donc, ça peut être des massages relaxants, ça peut être prendre un bain avant de se coucher, ça peut être également écouter une musique apaisante. On met comme ça des playlists musicales parfois. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose qui parle à l'individu. Il ne faut pas faire les choses pour nous, il faut penser à ce dont la personne peut avoir besoin. Et la nuit, une chose est importante, si on ne fait pas d'activité stimulante, si on veut que la personne dort, on fait tout pour la reconduire dans sa chambre et pour la reconduire au sommeil. Donc plutôt, ça peut être une petite collation, mais pas une collation parce que la personne a faim, une collation comme médiation dans la relation pour reconduire au sommeil. J'espère que je vous ai répondu.
Merci beaucoup, monsieur.
Oui,
dernière question.
Qu'en est-il de la sieste ?
Ah oui, mais c'est une bonne question, à mon sens. Mais ça, je confirme. Hein.
Vous savez, alors moi, je suis quelqu'un avec plein de petites phrases. J'ai toujours faut user, pas abuser. Voilà, c'est ça. Moins de 30 minutes.
Ok. Vous êtes autorisé quand même. Hein.
Voilà,
vous avez remarqué, mais moins de 30 minutes.
Une toute petite sieste. Au contraire, je veux dire une micro-sieste postprandiale. Par contre, lorsque vous dormez 2 heures, en général, ça ne va pas favoriser le sommeil. Et voilà, donc pas trop de sieste quand même. Mais encore une fois, ce n'est pas la sieste qui va poser problème, c'est ce que vous allez faire autour de la sieste. C'est-à-dire que, je suis désolée, mais quand on se lève le matin, qu'on prend le petit-déj, qu'on se visse devant la télévision, on déjeune, on fait la sieste, on se visse devant la télévision, on prend le goûter, on se visse devant la télévision, qu'on ait du mal à dormir le soir, je le comprends. Par contre, si vous êtes hyperactif dans la journée, que vous avez des interrelations, parce que les relations interpersonnelles, c'est pour moi ce qu'il y a de plus sain pour préserver le cerveau. Vous pouvez vous faire une sieste, il n'y aura pas de répercussions, je pense. Voilà. Donc sortez faire du sport et rencontrer des gens parce que le cerveau, c'est un grand sportif extrêmement sociable.
Merci encore pour ce beau message. Merci infiniment.